Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. 9h40 sur France Inter, c'est reparti pour un nouvel Instant M.
Vous coupez ?
Non, je vous
vois. Vous êtes en direct, allez-y.
Les médias au cœur des questions soulevées par les Gilets jaunes. La couverture médiatique du mouvement, bien sûr, mais plus profondément le sentiment qu'un irréparable fossé s'est creusé entre les médias et les Français. Sentiment de distance, perte de confiance, rancune, rejet. La semaine dernière, l'Instant M a interrogé des reporters télé sur l'essence et l'évolution de leur métier, les critiques que cela peut susciter. Ce matin, autour d'un éditorialiste, et pas n'importe lequel, un nom, un visage particulièrement décrié dans les groupes de Gilets jaunes, sans doute parce qu'il est mieux identifié que les autres, là depuis très longtemps, et qu'il incarne, à sa façon, le journaliste qui disserte, donne des leçons, sans jamais sortir de son studio de télévision. J'ai nommé Christophe Barbier, Gilets jaunes contre écharpe rouge.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Et à la question, les éditorialistes sont-ils par essence détestables et pourquoi vous, ils ne se dégonflent pas, ils foncent avec envie d'expliquer. Bonjour Christophe Barbier.
Bonjour Sonia.
C'est vrai, je vous ai appelé, je vous ai vraiment posé la question comme ça. Pourquoi on vous déteste, vous et vous les éditorialistes? Et vous m'avez dit, je viens. Je vous présente donc ancien patron de l'Express, éditorialiste à iTélé, devenu éditorialiste du matin sur BFM TV. Pilier des débats de l'émission C'est dans l'air de sur France 5 depuis de nombreuses années et toujours éditorialiste à l'Express. Ça fait beaucoup, beaucoup d'éditos. Un éditorialiste, à quoi ça sert et comment ça travaille? À des lecteurs du journal du dimanche, Christophe Barbier, l'année dernière, vous asseniez sans détour, se confronter au terrain, ça pollue l'esprit d'un éditorialiste.
Oui, c'était un peu provoque hein, comme commentaire. Oui, mais je m'explique. C'est-à-dire que si vous allez sur du terrain, surtout du terrain à forte charge émotionnelle, on est des êtres humains. Donc vous pouvez pas faire un meeting qui est en transe, qui est un meeting formidable, sans en être vous-même perturbé. Vous pouvez pas aller à la rencontre de gens qui sont dans des situations extrêmement désastreuses, sans en être touché. Et à partir de ce moment-là, votre métier change. Vous êtes reporter, vous êtes enquêteur, mais vous ne pouvez plus être éditorialiste au sens où éditorialiste, il faut qu'il y ait à un moment donné votre opinion, votre analyse, votre réflexion insensible émotionnellement à ce que vous auriez pu voir sur le terrain. Alors évidemment, j'en fais du terrain. Je vais tous les week-ends, grâce à mon activité théâtrale, sur le terrain. Je vais jouer bientôt à Florange, à Antony, j'ai joué à Draveil, je vais à Latte. Je rencontre des tas de gens qui me parlent, des éditos qui me parlent de l'actualité. Mais moi, je me méfie du terrain à forte charge émotionnelle. Quand on est dans une situation où on peut être en empathie, où on peut être transformé personnellement par ce que l'on voit, à partir de là, on fait un autre aspect de notre métier. Et certains le font très très bien. Florence Aubenas fait ça à merveille. C'est du grand journalisme.
C'est une grande reporter du
monde. Reporter du monde, qui elle va au cœur du terrain jusqu'à devenir femme de ménage pour nous raconter les femmes de Ouistreham, et c'est formidable. Mais moi, c'est pas mon métier. Alors, d'abord, ça, je saurais pas le
ça
faire.
Ça pose quand même une vraie, vraie question, c'est de quoi vous nourrissez vos éditos, de quoi vous nourrissez la vision de la société que vous égrenez chaque matin à la télévision, chaque semaine dans la presse écrite et régulièrement sur France 5. Je vous donne un exemple. Bernard Guetta, 27 ans, d'édito géopolitique sur France Inter, raccroche les crampons en juin dernier, et lors d'une matinale dit en toute humilité, j'ai souvent échoué, je me suis souvent trompée, mais surtout j'y retourne, je repars en reportage, je suis trop loin de mes sujets.
Ah, je peux comprendre ça. Je peux comprendre qu'à un moment donné, le baroudeur, surtout à l'international, ait envie de se replonger complètement dans le terrain du reportage, après avoir été dans les nuées, comme ça, de l'éditorial ou de la pensée.
Donc vous reconnaissez que c'est des nuées?
Ah oui, c'est des nuées,
c'est
bien
totalement
sûr.
Hors sol.
Non, c'est pas hors sol. La nuée n'est pas hors sol. Il n'y a pas d'atmosphère sans terre. Il n'y a pas de terre sans atmosphère. Simplement, il faut parfois essayer de regarder de plus haut, quitte à voir de plus loin et donc de plus flou. De quoi je me nourris? Moi, je me nourris de l'histoire. De l'histoire récente, les 30 ans de politique que j'ai pu suivre et commenter, de l'histoire plus ancienne. Quand nous débattons hier du traité d'Aix-la-Chapelle, qui est tellement détourné par des tas de politiques, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se souvenir de celui de 1668. Qui a vu la France lâcher des places en Franche-Comté, aussi de rappeler celui de 1748, qui a inventé l'expression « nous nous sommes battus pour le roi de Prusse, les Français font la guerre, puis le traité de 1748, il est au profit de la Prusse ». Ça nous parle, nous nous sommes battus battu pour le roi de Prusse à l'heure où Le Pen et d'autres nous disent l'Allemagne va nous prendre l'Alsace-Lorraine.
Oui,
et ça,
ça
je pense
parle.
Que c'est le travail de l'éditorialiste
oui, ça nous parle.
Qui est
mais
complémentaire
vous avez été
du terrain.
Nommé à 34 ans, Christophe Barbier, directeur adjoint de l'Express. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas sorti d'un bureau de direction si ce n'est pour remplacer le bureau par un studio? C'est quand même ça la question qui se pose et que pardonnez-moi Christophe Barbier, les gens qui sont dans la rue se posent et pointent la distance, ce fossé, mais que, je l'ai dit, bientôt infranchissable entre eux et ce que les médias disent d'eux. Vous parlez de l'histoire, vous parlez de 1648, mais vous parlez des Français concrètement, vous parlez des Français qui sont dans la rue concrètement.
Mais bien sûr, mais il y a un quart d'heure j'étais dans un bus et j'ai parlé avec des gens. Il y a 10 minutes j'ai bu un café avant d'entrer dans votre studio, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a parlé du Houellebecq et de ce que je pensais de Houellebecq et c'est en permanence.
Mais là vous ne sortez pas de deux arrondissements mon cher.
N'empêche que je vois des gens qui sont aussi des gens qui ne sont pas de nos milieux. Oui. Tout à l'heure en venant, j'ai répondu par mail à monsieur Serge Legrand qui m'agressait parce que ses propos étaient très virulents par mail parce que sa compagne gagne 1300 € par mois et il considère que nous ne comprenons pas ce qu'il y a derrière les gilets jaunes. Et ben je lui ai compris. J'avais aussi monsieur Lamy qui m'a dit qu'il ne comprenait plus, lui fidèle téléspectateur, comment on pouvait être aussi loin de cette colère des gilets jaunes et comment on pouvait se faire avoir par le grand débat d'Emmanuel Macron. Il me reprochait d'être le porte-parole de Macron. C'est ça aussi le terrain. C'est les gens qui viennent à moi en me disant je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec vous.
Parce
ils viennent à moi parce que j'ai
une
écharpe rouge dans le métro, ils m'abordent. Et puis ils viennent à moi aussi par les mails, par les tweets. Alors parfois quand c'est trop des injures ou des menaces de mort, vous voyez là j'en ai un qui ce matin me dit cette pute de Judas, ce barbier à merde. Je vais pas lui répondre à lui. Non. Ça aussi ça existe. Mais quand on m'invective en me disant j'ai écouté ce que vous disiez, je suis pas du tout d'accord avec vous, vous dites n'importe quoi, j'essaye de répondre. Le terrain vient à vous, on n'est pas si coupé que cela.
On n'est pas si coupé que cela. Je vous fais écouter. Vous parlez des gilets jaunes.
Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose de très populaire à faire. C'est de supprimer la redevance télé. Et ça, beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie.
C'était danser dans l'air. Ce sont des gens qui regardent la télé.
Bien sûr.
Ils n'ont pas beaucoup.
Bien sûr, mais c'est vrai. Quand vous êtes à 30 km d'une ville moyenne...
Mais vous venez de dire vous-même, Christophe Barbier, les gens ne sont pas que des statistiques, que justement vous vous en teniez loin, parce que parfois il faut pouvoir réfléchir pour regarder plus loin.
Oui.
Et derrière, ça ne vous empêche pas de dire ces gens-là regardent la télé.
Bien sûr, mais parce que je les rencontre quand même. Quand je fais mon édito, j'essaye de me dire voilà, il faut que j'ai une pensée à moi. J'ai peut-être pas raison, j'ai pas la vérité. Mais ce que je veux, c'est que les gens se forgent leur opinion à partir de la mienne. Ils vont être d'accord ou pas d'accord avec moi, c'est pas grave. C'est tant mieux même s'ils sont pas d'accord, ça veut dire qu'ils ont un esprit critique. Mais au moins, j'aurais mis une petite graine dans le débat qui autour de laquelle ils vont pouvoir structurer leur réflexion et leur opinion pour savoir quand ils voteront pourquoi ils votent comme ça. Mais ça m'empêche pas d'aller les rencontrer. Encore une fois, quand je vais à Draveil jouer ma pièce de théâtre, je rencontre des gens qui me disent « Vous savez que j'ai un élevage d'oiseaux de compagnie et on va me taxer sur les bagues à oiseaux. » Je réfléchis, j'en ai fait une chronique hein, sur RMC. Voilà, je vais à leur contact. Et quand je vais dans ces coins de France où on me dit « Ah ben on est content de vous avoir vu parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de spectacles qui viennent dans notre région. On peut pas faire 30 km pour aller au musée. Aller à l'opéra à Toulouse qui est à 50 km ou à Bordeaux qui est à 60 km, c'est trop cher pour nous. » Et ben ils me disent quoi? Les gens me disent « Heureusement qu'on a la télévision. » Et donc d'où ma proposition, qui ne sera pas retenue évidemment, de supprimer la redevance et de la remplacer par une taxe sur tous les moyens de télécommunication, notamment les smartphones.
Parce que le fait que les gilets jaunes regardent plus la télé que d'autres, ça n'est en réalité prouvé par aucune enquête.
Gens les plus populaires n'ont pas les moyens d'avoir accès à la culture chère. C'est cher la culture, c'est cher d'aller à l'opéra, c'est cher de prendre un abonnement dans un théâtre. Et donc la télévision est le lien culturel vers eux. Donc rendons la télé moins chère.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous dites le terrain ça pollue les éditorialistes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des journalistes de terrain qui vous renvoient le compliment. C'est-à-dire qu'ils disent, et notamment des journalistes de Chaîne Info, et notamment des journalistes de BFM TV, qui l'ont exprimé très clairement pour la première fois depuis la création de cette chaîne. Nous, on va sur le terrain. On y va tous les jours. C'est notre boulot. Et qu'est-ce qu'on nous renvoie? On nous renvoie le rejet des éditorialistes qui disent des choses dans lesquelles les gens ne se reconnaissent absolument pas. Et ce rejet-là, parce que vous vous dites, ça permet de créer de la pensée, ça forge de la pensée, ça forge aussi du rejet, et dans le rejet il n'y a pas forcément de la pensée, Christophe Barbier. Et les journalistes de terrain, ils s'en plaignent de ce rejet-là.
C'est vrai, ils ont raison, il faut qu'on soit très vigilant à cela parce que nous exprimons des opinions, elles doivent avoir une force, un peu d'innovation et parfois de provocation, sinon c'est pas un édito, c'est de l'eau tiède, ça sert à rien. Mais il faut qu'on fasse attention au fait que sur le terrain, là, au plus près du contact avec les gens, et notamment dans des manifestations ou sur les ronds-points, ce sont nos reporters qui, eux, vont être confrontés à la réaction parfois virulente des gens. Et ça, il faut qu'on fasse attention. D'abord, pour ne pas les mettre, nous, en situation de péril, et on a vu beaucoup de violence contre les reporters de terrain.
Non, mais ensuite, là, on y est, très concret. Qu'est-ce que ça suscite?
Il ne faut pas non plus qu'on rentre dans l'autocensure et qu'on soit dans le renoncement à nos idées en se disant, oulala, je ne veux pas créer de difficultés, donc je ne vais pas faire de bruit, je ne vais pas faire de provocation. Et là, il y a un juste milieu à trouver qui n'est pas évident. Alors moi, je dirais aux gens qui sont en colère, si vous êtes en colère contre moi, écrivez-moi, adressez-vous à moi, essayez de le faire avec des arguments pour vous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec des témoignages sur vos expériences. Ne vous en prenez pas aux reporters que vous allez rencontrer qui, au contraire,
est-ce que vous croyez pas que ça suscite, et on le voit bien quand les reporters de terrain essuient la colère des gens vis-à-vis d'une caste médiatique et au lieu de s'adresser à vous, Christophe Barbier, qui en êtes le symbole pour beaucoup de gens. Donc on voit bien qu'il y a une vraie confusion. Est-ce qu'il n'y a pas là derrière ça une autre confusion beaucoup plus grave et beaucoup plus dommageable, qui est de confondre les journalistes qui font de l'analyse et les journalistes qui sont là pour couvrir des faits, mais derrière ça, de confondre l'opinion et les faits eux-mêmes. Je vous fais réécouter un extrait de la matinale d'hier. La tête de liste du Rassemblement National était l'invité de Léa Salamé au micro de France Inter à 7h50.
Vous avez écouté Marine Le Pen, elle s'interroge aussi sur l'article 8 comme vous. Elle estime qu'on va organiser le partage de notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Voilà ce qu'elle dit, c'est faux. C'est pas ce que prévoit le traité, c'est faux. Mais vous le dites ?
Mais ça c'est votre avis. Encore une fois, on a le droit d'avoir un avis.
C'est pas mon avis, c'est écrit noir sur blanc.
On a le droit d'avoir un avis.
En aucun cas, on partagera notre siège permanent. On va pousser pour que l'Allemagne en ait un, mais en aucun cas on partagera.
Est-ce qu'on a le droit de s'interroger aujourd'hui ? Et on a le droit d'avoir un avis qui diverge des journalistes.
Vous avez tout à fait
on a le droit d'avoir un avis qui diverge des éléments de langage du gouvernement.
Que ce traité organise le fait qu'on va partager notre siège permanent, c'est faux.
Ce qui est génial, c'est que ça fait maintenant...
Voilà, Christophe Barbier, extrait de l'interview de Léa Salamé hier. Là, on y est, c'est-à-dire les gens confondent les journalistes qui donnent leur avis, c'est-à-dire vous, et les journalistes qui couvrent les faits. Mais derrière ça, ils en sont venus à confondre les avis et les faits eux-mêmes.
Oui, on est dans un moment de grande confusion, parce qu'en plus de cet éternel débat entre les faits et le commentaire, où est la frontière, où est la zone grise, il y a tout ce qui est ouvertement faux, ou détourné, déformé pour des raisons idéologiques, et que les réseaux sociaux ont complètement rendu de manière exponentielle. Et ça, ça n'interroge pas que les éditorialistes, ça interroge toute la société.
Non, mais on interroge beaucoup les réseaux sociaux, on interroge beaucoup de choses. On interroge rarement les éditorialistes là-dessus. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi leur part de responsabilité? Est-ce que la part qu'on leur a donnée de faire des chaînes d'opinion, de laisser autant de place aux opinions et aux débats d'idées sur les chaînes de télé, est-ce que ça n'a pas favorisé ça aussi?
Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y aura jamais assez de place, jamais trop de place pour du débat, pour des confrontations d'analyse sur les chaînes de télévision ou sur les médias en général. Parce que c'est une forme d'agora, c'est une forme d'espace démocratique. Après, il faut travailler à ce que les gens fassent bien la distinction entre ce qui relève des faits incontestables et ce qui relève après de l'interprétation des faits par les éditorialistes.
Voilà. Et donc, ils ne font plus la différence entre éditorialistes et journalistes de terrain, ils ne font plus la différence entre le fait et l'opinion qu'on se fait des faits.
Tout ce travail-là de distinction, les médias peuvent le faire en rappelant à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs ce qu'il en est. C'est aussi un problème de société. C'est des l'école qu'on doit aiguiser l'esprit critique des jeunes pour qu'ils se fassent leur opinion à partir des faits qu'ils verront et à partir des autres opinions qu'ils entendront pour ne plus confondre mais pour additionner et distinguer. Vous savez, mon prof de philo en Cagne disait toujours, maître Choulet, il disait la bêtise amalgame, l'intelligence distingue. Distinguer. À chaque fois dire.
On n'est pas là, Christophe Barbier, pour cracher sur la Cagne, sur l'école normale supérieure, ni pour cracher sur l'école, ni pour cracher sur l'intelligence. Jamais je ne le ferai. Mais je constate quand même Fox News aux États-Unis, 140 débats télévisés à la télévision italienne depuis des années et des années. C'est-à-dire, justement, cette part donnée au débat, et au débat d'éditorialistes, et au débat de journalistes, et au débat de gens intelligent, justement, ça a aussi favorisé ça. C'est-à-dire, je vous rétorque, monsieur, que ce sont des faits. Eh bien, moi, je vous dis que c'est votre avis. Et que comme on passe notre temps à débattre avis A contre avis B, eh bien, il n'y a qu'à répondre avis B si vous me dites avis A.
Tout ne se vaut pas. Avis A et avis B, c'est pas 3 minutes pour les uns, 3 minutes pour les autres. Mais que faire d'autre que de croire en l'intelligence collective des Français, des citoyens, des électeurs, pour qu'à terme, la vérité, la bonne interprétation des faits l'emporte, pour que ça tombe du bon côté. C'est exactement le fonctionnement de la démocratie depuis les Grecs, depuis Périclès. Et de temps en temps, ça tombe du mauvais côté. Alors, c'est-à-dire que le mauvais avis finit par être majoritaire dans notre pays. Ce ne sont pas toujours les bons qui gagnent. Et ça, il faut en accepter le risque, parce
qui
que
sont
l'autre
les
solution,
bons,
ça serait
justement.
De dire...
Qui sont les bons? Non mais c'est extrêmement intéressant. Parlons, vous qui aimez les mots plus que tout, en tant qu'homme de théâtre, mais surtout en tant que plume de la presse et homme de télévision et de radio, votre langue, votre expression orale, elle est d'une aisance incroyable, ça on le sait tous, vous faites vos éditos quasiment sans notes. On les a beaucoup écoutés, vous utilisez sans limite le futur et les injonctions.
Il faut maintenir les ronds-points pour que la veille et la pression s'exercent sur le pouvoir. Il ne faut pas manifester dans les centres-villes. Il faut que l'expression citoyenne soit plus ouverte, qu'on consulte plus souvent les citoyens. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le Macron-circus. Donc il faut qu'il fasse deux choses. La première, à mon avis, c'est de mêler des élus et des citoyens. Participer à ce grand débat. Il faut que les gilets jaunes s'en emparent. Le boycotter serait une erreur funeste. Il faut qu'ils envahissent ce débat.
Il faut, Christophe.
Bien sûr, mais je crois en des choses, j'ai des convictions et je veux entraîner le plus de monde dans cette direction. Maintenant.
Vous comprenez que vous passez pour un donneur de leçons.
Mais bien sûr. Mais c'est évident. Mais ce ne sont
pour
pas
le
des leçons
de ce que
au
Alain
sens.
Minc appelait le cercle de la raison.
Nous,
exactement. On
même
sait.
Si moi, je revendique d'être plutôt dans le cercle de la passion. Les extraits que vous avez montrés montrent bien que je suis pas tout à fait raisonnable parfois. Quand je réclame une nation européenne, je suis extrêmement minoritaire.
Sauf
quand je réclame le droit de vote
raison...
à 16 ans, je suis même seul, presque, à réclamer. Le cercle de la passion. Mais je veux entraîner le plus de gens dans la direction que je préconise. Mais c'est pas donneur de leçons au sens apprenez-la par cœur et récitez-la. C'est ma leçon à moi, ma démonstration à moi. Prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort de dire au rond-point, allez-y, envahissez le grand débat, les gilets jaunes. C'est comme ça que vous transformez votre victoire de terrain en victoire définitive. Prouvez-moi que j'ai tort. Je serais ravi qu'on prouve que j'ai tort. Et je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ne pensent pas comme moi et qui vont me dire « Non, non, nous les Gilets jaunes, on doit boycotter le grand débat parce que c'est un enfumage. » C'est leur responsabilité, c'est leur choix. Mais s'ils sont arrivés à cette conviction parce que moi je leur ai prêché le contraire, j'en suis ravi. Parce que quelque part, j'aurais participé à la construction de leur opinion, au blindage de leur opinion. On aura fait acte de démocratie. Je veux pas que 100% des gens soient d'accord avec moi. Je vais vous dire, je m'ennuierais si c'était le cas. Mais je veux que ceux qui pensent quelque chose, se disent bah, « c'est un petit peu grâce à ce type qui m'a énervé que je sais ce que je pense et que je le défendrai mordicus ».
Bien, bien, bien. Moi, je pense que quand on finit par énerver, on provoque pas toujours de la raison et de la pensée. Hein, puisqu'on en est à parler des mots et de la façon dont on s'exprime et de la façon dont on emporte avec soi, on a l'impression aussi que votre exercice d'édito politique, d'analyse politique, de commentaire politique a été beaucoup dévié, beaucoup dénaturé, beaucoup sorti de ses préoccupations originelles ces dernières années. On a l'impression que les mots d'Emmanuel Macron ont envahi l'analyse politique. Récemment, il disait le verbe déconne. Déconne. Et ça a suscité tellement d'analyses et de commentaires. On a l'impression que vous... et vos confrères ou vos semblables passaient énormément de temps à analyser la forme, les mots, et pas tellement les gestes, et pas tellement les faits.
C'est vrai que la politique a toujours été une logomachie. Donc par l'emploi de leurs expressions, les hommes politiques essayent de nous guider dans notre analyse. Il faut faire attention à cela. Mais c'est vrai aussi que la politique, c'est le verbe incarné. On ne peut pas faire l'impasse sur les expressions employées par les puissants, par les politiques, parce qu'ils disent beaucoup aussi de leur idéologie, de leur pensée. On le fait chaque fois qu'un mot est utilisé pour avoir un impact politique sur les gens. Ce qui est vrai, c'est que le temps passé à la forme, à la communication, mais la communication est fondamentale en politique, c'est du temps qu'on ne prend plus pour le contenu des politiques menées. Et ça, c'est compliqué.
Et là aussi, vous pouvez imaginer des millions de téléspectateurs qui se disent « Et pendant ce temps-là, nous, dans notre vie, il y a des lois, il y a des décrets, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. » Et ça, c'est notre vie concrète. Et de ça, on ne parle pas. Et de
si,
ça, Christophe Barbier
parle,
ne parle pas.
Mais on parle ailleurs. Moi, je n'en parle pas quand j'ai un exercice très bref, très concis, qui doit être très percutant sur des médias de brièveté et d'actualité chaude. En revanche, vous allez trouver dans des médias plus calmes, plus froids, bah, par exemple France Culture ou d'autres médias publics, des plages d'explications, de réflexion et d'approfondissement de ces thèmes-là, qui sont complexes. La réalité est devenue très complexe, peut-être trop pour que dans les médias chauds de réactivité, on la traite. Il faut donc que les citoyens aient plusieurs médias dans leurs oreilles. Des médias chauds, pour savoir ce qui se passe à l'instant où ils en parlent, des médias de réflexion plus froide, et surtout, surtout, n'oubliez pas, jamais, jamais oublier l'écrit. Un jour, se confronter à l'écrit, lire des journaux, des hebdomadaires, lire des
fin
livres.
D'émission.
Parce que là, on a la fin.
Vous l'entendez. Merci beaucoup, Christophe Barbier, BFM TV et L'Express.